deux témoins des violences et des conflits, quand Bernanos, l'écrivain, inspire Arcabas, le peintre d'art sacré. Voici la première partie de la conférence de Ricardo Sáez, professeur émérite des universités, une conférence enregistrée le 12 décembre 2022 à Pau, lors d'une soirée proposée par Foi et Culture. Deux témoins des violences et des conflits, quand Bernanos, l'écrivain, inspire Arcabas, le peintre d'art sacré. Voici la première partie de la conférence de Ricardo Sáez.
Bon, avant d'aborder la question qui retient notre curiosité de ce soir, je voudrais faire quand même deux petites remarques de méthode, la première et la seconde. La première remarque tient au fait que je vais parler quand même de choses qui sont relativement graves, difficiles à dire et difficiles à poser et à exposer. Mais j'ai appris depuis longtemps, parce que je suis un universitaire de cœur et de raison et de cœur, les deux à la fois, en lisant Marc Bloch, qui est quand même, j'espère, notre maître à tous, que l'histoire, en tout cas l'esprit, n'a pas pour but et fonction de juger, mais tout d'abord de comprendre et de faire comprendre. Donc c'est à cette règle de discipline, je dirais intellectuelle, que je me tiendrai ce soir. La seconde remarque, qui est aussi une remarque de méthode, c'est que je vais être obligé, bien sûr, d'utiliser, ou en tout cas, de solliciter un certain nombre d'hypothèses. Vous allez voir que le polyptyque, dont la splendeur plastique est véritablement admirable, pose beaucoup de problèmes d'interprétation. Et que, je suis sûr que le peintre lui-même ne les avait pas résolus. Car, très certainement, dans le flot de l'inspiration, il a créé des épiphanies tout à fait nouvelles dont il n'avait pas conscience. On a écrit un certain nombre de choses sur ce polyptyque. Je dois dire que peut-être la familiarité avec cette période, le fait que je sois né en Espagne et qu'une bonne partie de mon enfance et mon adolescence ait été bercée par des récits interminables concernant la guerre d'Espagne, m'a peut-être rendu un petit peu plus familier un certain nombre de phénomènes qui sont exposés dans ce polyptyque. Ceci étant, toutes les hypothèses, et je m'en tiendrai bien sûr à cet ouvrage fondamental de Claude Bernard, Introduction à la médecine expérimentale, à l'étude de la médecine expérimentale, 1965, à savoir que, eh bien, l'hypothèse nourrit l'idée, et l'idée pour se relancer revient à l'hypothèse. Donc voilà, nous allons garder tout ça, parce que c'est fondamental. Et tout ceci pour dire, très modestement, que malgré mon travail, et quand je prends un engagement, je le mène jusqu'au bout, eh bien, malgré mon travail, je vous prie d'admettre que ce travail est encore en gestation. Et qu'il reste ouvert, qu'il y a encore une porte ouverte à d'autres interprétations. Alors, pour nous y repérer, j'ai quand même introduit une chronologie de raison qui va être la suivante. Tout d'abord, bien sûr, je vais présenter les deux protagonistes principaux. Voilà le premier. Bernanos, c'est une des plus belles photos que je connaisse de lui. Voilà. Ensuite, je vais présenter le second, son livre, « Les grands cimetières sous la lune ». Et puis, très très vite, nous allons approcher le cœur du sujet, à savoir la définition, parce que c'est sous l'égide, il y a un chapeau, « Violences et conflits », qu'est-ce que ça veut dire « Violences et conflits » d'une part. D'autre part, ces violences et conflits sont effectivement situés dans une époque, et une époque qui est tout à fait contemporaine, c'est-à-dire les années 36, 37, 38, où l'équilibre du monde est en train de changer. Ensuite, bien sûr, je me posais une question qui est pour moi radicale et qui est pour moi d'une grande gravité. Quelle est l'attitude au regard de l'histoire pour l'historien du chrétien, partant de guerre, partant de conflits, de massacres, etc., etc. Et quelle est la réponse qui est apportée? Car Bernanos, non seulement décrit, mais il apporte bien sûr toute une grille de lecture dans laquelle nous avons un certain nombre de solutions. Et elle nous touche d'autant plus que nous avons été peut-être baptisés, nous avons communié et que nous sommes dans le giron, peut-être encore, ou dans la main de Dieu. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Ensuite, bien sûr, l'impact que la lecture de cet ouvrage va provoquer chez un jeune peintre-sculpteur, Arcabas, mais qui est Jean-Marie Pirot, et donc l'ébranlement qui va s'effectuer au-dedans de lui-même. Et donc c'est au terme presque d'une quête spirituelle qu'il va un jour, vous allez voir pourquoi et comment et pourquoi, il va rassembler ce qui était jusque-là disjoint et il va donc créer un polyptyque magnifique d'une splendeur picturale et d'une splendeur plastique hors du commun, que je vais vous montrer, qu'on va étudier. Et donc nous allons voir comment il va, à partir de la lecture, exécuter un certain nombre de toiles, au nombre très certainement de 6, mais il y en a 4 qui vont figurer ensuite dans le polyptyque, et qui vont donner sens et unité à un énorme polyptyque qui est donc barré au milieu par la crucifixion, la figure du Christ en croix. Donc, le passage du texte à la figuration picturale, le dialogue intense entre l'écriture et la peinture, c'est-à-dire, eh bien, comment deux génies vont se rencontrer, tout en sachant quand même, et c'est de nuance et de taille, que l'artiste ne décalque pas l'ouvrage. Il est libre dans son interprétation de l'ouvrage. Donc ce n'est pas un décalque, il ne démarque pas l'ouvrage. Il va devenir à son tour créateur. Bien sûr, d'autres sens, d'autres symboles qui sont très très intéressants. Donc c'est à la fois la façon dont la peinture a été fécondée, d'une part par l'ouvrage, mais aussi, en même temps, l'ouvrage en lui-même est limité, et il va être refécondé par, bien sûr, la création picturale. Enfin, et ça sera la chose la plus difficile, nous esquisserons une conclusion qui sera pour moi provisoire, car je pense que cette question, et nous sommes dans les violences, l'Église est secouée par d'autres types de violences, mais qui ont des paramètres très similaires. Je pense que cette question reste éminemment ouverte et qu'il n'appartient à personne, ex cathedra, d'apporter une solution. Je crois que la solution est tout à fait collective et elle doit être d'ailleurs difficile à trouver, parce que si elle était facile à trouver, on l'aurait trouvée depuis longtemps. Donc, Arcabas, hommage à Bernanos, 1962, deux témoins des violences et des conflits quand Bernanos l'écrivain inspire Arcabas, le peintre d'art sacré. Si la thématique retenue, violences et conflits, offre plusieurs entrées et se prête de ce fait à se voir déchiffrer sur plusieurs portées, entrées portées, permettant d'explorer la courbe de ses multiples significations, j'ai choisi pour ma part, afin de l'inscrire dans les drames sanglants de l'histoire du XXe siècle, de l'illustrer en prenant appui sur une des œuvres majeures, de Georges Bernanos, 1888-1948, Les grands cimetières sous la lune. Qui est un ouvrage d'une foudroyante lucidité, d'un prophétisme lumineux, mais il a bien vu ce qu'il y avait comme dynamite dans cet ouvrage, et il s'est empressé effectivement d'écrire Bon, il a été publié en 1936 chez Plon, à Paris, et effectivement, il nous dit, dans le langage, c'est-à-dire la façon d'écrire et les idées exprimées, dont le langage a de quoi faire sourire les entrepreneurs de réalisme politique, en clair, tous les Machiavel de ce bas monde, ces tricheurs, menteurs et cyniques, qui ont fourni, après la guerre d'Abyssinie, 1935-1936, et celle d'Espagne, d'innombrables professions de foi d'un total immoralisme, au dire de Bernanos lui-même. Si l'ouvrage cité se soutient de lui-même et n'a nul besoin donc d'être associé à un autre pouvoir que celui qui lui octroie son créateur, c'est-à-dire son talent littéraire, il est énorme ce talent littéraire. La force de cette écriture, quand on a lu par exemple Sous le soleil de Satan, moi la première fois je l'ai lu, j'étais presque à la fin de l'adolescence, j'ai été presque écrasé par cette masse d'écriture, par cette sève d'écriture qu'il y a dans ce livre. Donc, il nous dit, donc je dis, ne pas subordonner à un autre pouvoir que celui, bien sûr, que lui octroie les talents littéraires et le mordant critique dont l'a pourvu son créateur, il serait toutefois préjudiciable, ça ne tient pas bien, non du tout, ça va bien, préjudiciable de ne pas l'associer étroitement à la secousse intérieure que provoqua la lecture d'un tel texte au tournant des années 1950 chez un jeune peintre et sculpteur, Jean-Marie Pirot, né le 26 décembre 1926 à Trémery, en Moselle, c'est très important, vous étiez décédé le 23 août 2018 à Saint-Pierre de Chartreuse, en Isère, connu sous le nom d'Arcabas, l'un des maîtres incontestés de l'art sacré contemporain en France. Pour introduire donc à la question de ce soir, il est de bonne méthode de clarifier le périmètre de sens des deux termes clés ici proposés, violence et conflit. On doit sur ce point, sur le point de violence et conflit, à un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Yves Michaud, une réflexion très stimulante s'efforçant de différencier la spécificité, c'est-à-dire le champ d'application de chacun de ces deux vocables. S'il est acquis depuis Héraclite, il va très loin, qu'était le sens de ces termes, s'il est acquis depuis Héraclite que le conflit, le combat, la querelle, voire la dispute, le polémos en grec, litis en latin, constitue un facteur indispensable de la dynamique interne des sociétés, car ils empêchent tous ces termes, l'immobilisme ou sa forme la plus perverse, le totalitarisme, au point que nombre de sociologues aujourd'hui, de nos jours, crédite d'une valeur positive tous ces termes. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de la vertu des conflits? La violence, en revanche, se voit affectée d'un sens négatif, logé déjà à l'origine du mot, dans son étymologie, j'aime bien l'étymonomène, allez à la source, donc bia en grec, vis en latin, où dérive l'adjectif violent, le substantif violeur et le verbe violer, désignant la force en action, l'agression, la contrainte, l'emprise, la destruction. À solliciter les fragments d'Héraclite l'Obscur, qui remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ, parvenu jusqu'à nous, le conflit, le polémos, s'il participe au destin tragique des êtres, n'en constitue pas moins une puissance dynamique s'exprimant dans l'harmonie des contraires, car étant le fondement, c'est-à-dire le père de toute chose, vous me permettrez de citer un petit peu de grec, polémos tanton pater, le premier moteur, ce, comme dirait Aristote, ce primum mobile, la première cause, comme dirait Cicéron, prima causa, il rétablit par là même l'équilibre du cosmos et l'accord de ses discordances, c'est-à-dire cette tension des contraires, cette concordia discorde qui règle l'ordre du monde, la marche du monde. La guerre, quant à elle, relève toujours d'un conflit armé, mais tous les conflits, comme nous le savons, ne sont pas forcément armés, au même titre que toutes les résistances en 1940-44 ne furent pas seulement armées, on en connaît, et qui furent tout à fait civiles et spirituelles. De la violence, on s'accorde à penser qu'elle désigne l'utilisation intentionnelle de la force sans égard à l'utilité de son usage. elle peut être physique et psychique, morale, entraînant coups, souffrances, blessures et morts. Ses visages les plus apparents se déclinent à l'intérieur d'une typologie, embrassant entre autres, parce que je ne veux pas faire le catalogue, hein, entre autres les violences sexuelles, conjugales, policières, la violence des armes et celle des mots. Hein, la violence des armes et celle des mots, ces mots gorgés de haine, ces mots qui tuent, sale juif. Ces mots qui tuent, et Dieu sait si nous avons des mots qui tuent dans l'histoire. Il y a même des catalogues, déjà, qui sont amusés à relever tous les mots. Et donc, qui disent, bien sûr, la honte, l'opprobre de ceux, effectivement, auxquels on les adresse. Caco, par exemple, en état. Bien. Donc, nous avons donc les visages les plus apparents, c'est des clés à l'intérieur d'une typologie, embrassant entre autres les violences sexuelles, conjugales, policières, la violence des armes, c'est le démon, c'est le mot gorgé de haine, c'est le mot tu, dont on possède, déployé dans la longue durée, depuis l'Antiquité, une très éclairante étude intitulée « Les violences intellectuelles de l'Antiquité à nos jours ». On pourrait, sans trop de mal, se complaire à étoffer une telle énumération, devenant plus précise, plus exhaustive. Mais là n'est pas mon propos. J'aurais pu également, avec la même légitimité, et ça m'a hanté pendant des mois, étudier la violence dans l'œuvre de Bernanos, à travers ses romans et à travers également donc son œuvre théâtrale, Le dialogue des Carmélites. La tentation d'ailleurs n'a cessé de me hanter, donc parce qu'elle est parcourue par le fil rouge de la violence, comme le révèle à bon droit, la première et la dernière de ses publications. Elles sont tout à fait symétriques. Alors la première, elle est peu connue, c'est pour ça que je vais la citer. C'est une toute petite nouvelle de 9 pages dans une revue inconnue, incolore et inodore, la revue hebdomadaire, qui s'appelle Madame d'Argent. Madame d'Argent est l'épouse d'un professeur, d'un romancier réputé, qui a d'énormes aventures avec tout un tas de maîtresses, et elle va tuer l'enfant que son mari a eu avec l'une de ses maîtresses, qu'elle va ensuite assassiner. Lui montrant qu'elle est au courant de la vie affective de son mari, celui-ci, dans un mouvement de violence irrépressible, la tue. Voilà. En 9 pages, vous avez du début à la fin des pages gorgées de violence, de colère, de violence. La dernière, le dialogue de Carmélite, pièce théâtrale rédigée au seuil de la mort de son créateur, mettant en scène des religieuses guillotinées en place de grève le 17 juillet 1794, lorsque la terreur qui fera environ 40 000 morts en France, si on compte la province, parce qu'on a peu travaillé la province, on a surtout travaillé Paris. Mais c'était une question que j'avais en Hippocagne, en 1969. Voilà, c'était la Révolution française et le livre de l'Orfèvre fut effectivement notre Bible de l'année. Eh bien, donc 40 000 morts, et donc lors de la terreur, qui fera environ 40 000 morts en France, atteignant son aveugle paroxysme, déchaînant ses incontrôlables instincts criminels. Dans cet ordre d'idée, comment ne pas évoquer cette violence qui éclate à fleur de peau et de corps dans la nouvelle histoire de Mouchette. La première histoire de Mouchette, c'est « Sous le soleil de Satan ». Bon, dans cette nouvelle histoire de Mouchette 1937, cette gamine de 14 ans a tout jamais cabossé, marginale et solitaire, fille d'un couple d'ivrognes, c'est du Zola, violée dans sa cabane par le braconnier Arsène, en grec ça veut dire « viril », brutal et carnassier, alors que cette petite voue à ce hors-la-loi, confiant cette audace. Poursuivant cette énumération littéraire, je ne suis pas le seul à l'avoir lu, me revient aussi en mémoire le passage d'une violence inouïe lorsque Laure de Malocène, dans « Mort ou état victoire » de Daniel Rops, quitte, bravant le brouillard et le froid de la nuit, à la suite d'une tentative de viol rendant la scène irrespirable, le château où elle a été accueillie à la mort de son père. C'est une des scènes les plus violentes de toute la littérature française. Écrite par Daniel Roche, c'est tout au début, elle est à lire et à relire, elle est d'une qualité littéraire aussi hors du commun. Mon propos n'est pas de décrire, il vise à inquiéter et à interroger le rapport du chrétien à la violence dans nos sociétés modernes à travers un questionnement d'une irrécusable actualité que Bernanos l'écrivain, d'une part, et Arcabas l'artiste peintre, d'autre part, ont traité d'admirable manière, à savoir, quelle est la réponse, attitudes et comportements que le chrétien, le croyant, ou celui qui se déclare tel, apporte au conflit et aux violences ? Question, à mes yeux, centrale et radicale, car sa réponse confronte ce dernier, c'est-à-dire le chrétien, le croyant, directement à sa vérité profonde, c'est-à-dire à son lien indestructible au Christ, son guide et seul maître. Car le chrétien n'est ni de droite, ni de gauche, il est, comme l'a écrit saint Jean, tout entier et simplement, mais pleinement, de Dieu. De Dieu, certes, mais comme lui, ni neutre, ni passif. En effet, seul cette exaltante ascendance, à tous égards libératrice, l'engendre en tant que fils et héritier de la force subversive de l'Évangile, de sa provocante densité et de sa toujours étonnante nouveauté. Quand j'arrive à Tolède, en 1984, pour passer 3 ans avec mon épouse et nos 2 enfants, je tombe sur le premier théologien laïc espagnol qui s'appelle Alejo Venegas de Busto, et je tombe sur une phrase magnifique, un traité magnifique, où il dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus nouveau que l'Évangile, puisque il n'a jamais perdu sa nouveauté. Et donc c'est un petit peu un hommage à lui que je parle effectivement de cette nouveauté toujours renouvelée. Sous ce rapport, une des méprises les plus tragiques et coupables dans laquelle est tombé l'homme du XXe siècle, et par conséquent le chrétien, qu'Emmanuel Mounier, je suis amené à parler d'Emmanuel Mounier, est tombé l'homme du XXe siècle, et par conséquent le chrétien, qu'Emmanuel Mounier a fustigé avec une pénétrante clarté, l'attribuant à la place envahissante que tient la technique dans le monde moderne, car sa capacité de construire a accru sa capacité de détruire, se résume en une seule et courte réflexion. Là où il y a médiation, l'aliénation guette. Je vais m'expliquer un petit peu là-dessus. Je n'ai pas la prétention de, bien sûr, faire une exégèse philosophique, mais on comprend quand même aisément ce que cela veut dire. En tout cas, pour ma part, cela veut dire quoi ? Eh bien, c'est effectivement, il est aisé de comprendre que c'est devant une telle situation de dépossession, de déprise d'intériorité et de conscience, de démission et de capitulation, c'est les termes qu'emploie Bernanos, que se trouve effectivement le chrétien, lorsque se livrant à la violence et à l'interdit du meurtre, tu ne tueras pas, nonokides, Exode 20-30, Romains 13-9, il fait choix de la primauté du temporel, matérialisé dans la puissance des techniques modernes au détriment de la primauté du spirituel, désertant par là même la loi d'amour qui le rattache à Dieu, devenant indéfectiblement autre, en latin alienus, c'est-à-dire agent responsable de sa propre aliénation, antithèse et négation des valeurs héritées du christianisme vivant et vécu. C'est bien ce que souligne clairement, car tous ces passages se correspondent, il y a des voies intérieures dans tous ces ouvrages, dont c'est ce que souligne clairement un passage martelant l'une des idées fortes de Bernanos, glissée dans la France contre les robots, publiée en 1947, mais dont les textes ont été écrits bien avant. Véritable critique sans complaisance contre la société industrielle et ses pouvoirs démiurgiques, limitant la liberté des hommes et bouleversant leur mode de pensée, que rapporte le passage suivant. En effet, depuis la guerre d'Éthiopie et celle d'Espagne, on trouverait peu de choses que le citoyen catholique revêtu d'un uniforme n'ait le droit de se croire au permis. En effet, dit-il, Il a le droit, par exemple, ayant commis les crimes les plus atroces, sa besogne accomplie, aller servir la messe et recevoir la Sainte Communion. Comment voudriez-vous, se pose-t-il comme question, que ce chrétien ne se fasse pas à la longue de l'État omnipotent la même idée qu'un disciple d'Hitler ? Pour mesurer la justesse d'une telle analyse, d'une telle prise de position, il suffit de scruter les périodes entaillées de violences et de conflits, saisies le plus souvent sous l'angle d'affrontements et de guerres et de massacres. Pour ce faire, un examen quelque peu attentif montre à quel point ces périodes opèrent telles de puissants marqueurs de la vitalité ou de l'effondrement de la foi, aux prises avec les cataclysmes, les séismes, les tourments qui fracture l'histoire dont le chrétien est témoin et acteur. Là, je saute une petite phrase. C'est ce questionnement qui unit foi, engagement et conscience que je me propose d'élucider ce soir en faisant dialoguer écriture et peinture, me liant à ce titre d'affinité et de complicité avec mon sujet, armé toutefois de quelques savoirs pour rapprocher deux œuvres éblouissantes dont je voudrais nous entretenir, Les grands cimetières sous la lune et l'imposant polyptyque d'une remarquable splendeur plastique. Oh, il n'est plus là. Bon, ce polyptyque est aujourd'hui exposé, vous pouvez aller le contempler, l'admirer. Il mérite effectivement le voyage à Toulouse, au cloître des Jacobins à Toulouse. Il s'intitule « Hommage à Bernanos ». Et certains critiques d'art n'ont pas hésité à le désigner comme le Guernica français. Quelles sont tout d'abord les données qui ont présidé à la rencontre d'un livre et la trace indélébile que ce livre a laissé, bien sûr, chez son lecteur, tout d'abord. Comment s'est nouée, donc, avec Bernanos, une connivence existentielle et essentielle pour le jeune Jean-Marie Pirot, professeur à l'école des Beaux-Arts de Grenoble, où il vient d'être nommé en 1950. Il se trouve que la Compagnie des Alpes, lui ayant demandé commande, lui ayant passé commande en 1962 pour un décor devant servir de mise en scène dans la chapelle du lycée Saint-Dal de Grenoble, du journal d'un prêtre de campagne, écrit à Majorque, comme vous le savez, en 1936, qui fut couronné par le Grand Prix du roman de l'Académie française, le peintre, loin de déborder d'enthousiasme, resta tout à fait sur sa réserve. Il ne fut pas du tout intéressé par la description, la vie discrète d'un prêtre de campagne dans une paroisse petite, obscure de l'Artois, là où lui-même, Bernanos, avait passé une partie de son enfance et de son adolescence. Le roman, on le sait, connut pourtant un immense succès, fut même porté à l'écran en 1951 par Robert Bresson. Pour sortir de l'impasse dans laquelle il se trouvait, satisfaire la requête de la Compagnie des Alpes, il s'autorisa, je cite, « à faire glisser son regard sur les grands cimetières sous la lune, l'un des chefs-d'œuvre sans conteste de Bernanos. On en voudra pour preuve le retentissement de l'œuvre dans laquelle, selon son propre aveu, il a trouvé la matière à mâcher et à rabâcher. Une entrevue, qui est vraiment exceptionnelle, accordée au soir de sa vie, en mars 2018, 5 mois avant sa disparition, en explicite les raisons, tout autant que le retour sur son propre passé traumatique, accentué par l'ébranlement produit par un tel écrit, tenu pour scandaleux dès l'année de sa parution par le camp catholique conservateur, qui va cependant réveiller, pas le camp, mais l'ouvrage, d'une façon violente, déclare-t-il, tout ce que j'avais vécu sous le nazisme, et d'un seul coup, je me sentis l'ambassadeur de tous ceux qui n'ont pas eu ma chance. J'ai donc été allumé, poursuit-il, comme un pétard, quand j'ai lu Les grands cimetières sous la lune, je me suis dit, voilà mon sujet. Et il est d'autant plus précieux qu'il concerne les gens d'église qui ont trahi l'évangile, et ça, c'est impardonnable. En effet, il convient de savoir qu'en raison de sa condition de Lorrain, il a été incorporé de force dans l'armée allemande, la Wehrmacht, à l'âge de 17 ans, ce qui fut le cas pour 134 000 Mosellans et Alsaciens, dont un quart périt au front ou dans les camps de captivité. Jean-Marie Pirot, pour sa part, est parvenu à s'évader puis à se cacher, car dans le cas contraire, il aurait été fusillé. Le choc d'un tel texte, l'impact d'un tel texte de Bernanos, qui faillit à peine sorti des presses se voir mis à l'index, à la demande expresse du clergé espagnol, et qui fut donc sauvé par le pape Pie XI, qui va dire donc à ce clergé espagnol, ça brûle, mais ça éclaire. Alors pourquoi effectivement le clergé espagnol a-t-il fait des pieds et des mains pour que ce texte ne voit pas le jour? Eh bien, l'histoire vient à notre rescousse, à notre secours, sans problème. Oh, bien. Vous savez qu'en 1936, il y a en Espagne un coup d'État militaire, que la propagande franquiste va tout de suite maquiller sous le terme de soulèvement national, levantamiento nacional. C'est un coup d'État rampant. C'est ce que, d'ailleurs, à trois reprises dans son texte, Bernanos appelle un pronunciamiento, un coup d'État. Alors donc, en 1936, l'Église donc d'Espagne maquille la réalité en faisant don de cette guerre donc espagnole. Donc ils vont l'affubler d'un terme tout à fait fallacieux, donc tout d'abord croisade, guerre sainte, c'est un argument qui va servir bien sûr de justification théologique, combattu énergiquement depuis le début par Maritain. Guerre civile, ce terme est impropre au moins pour deux raisons. La première, elle est connue, mais je tiens à la rappeler. Il n'y a pas de guerre civile. Toutes les guerres sont inciviles. C'est ce que n'a pas cessé de dire un grand philosophe espagnol, José Ortega y Gasset, que toutes les guerres étaient donc inciviles. Premier point. Deuxième point, il s'agit non d'une croisade, mais d'un putsch tout à fait répugnant, puisqu'il va mettre effectivement fin à une légalité sortie des urnes, une légalité tout à fait démocratique, d'une coalition de gauche, mais il convient de dire que cette coalition de gauche est complètement divisée. Bien, ce que, en règle générale, j'en ai eu encore la preuve vendredi soir, les gens qui sont dans la mémoire et pas dans l'histoire oublient de nous dire. Il y a une autre raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une guerre civile, d'une croisade, mais il s'agit bien d'un coup d'État. Il y a une troisième raison qui est vraiment formidable et qui se trouve dans une lettre, je vous demande de la lire dès que vous aurez le temps. C'est la lettre d'un être prodigieux qui s'appelle Simone Veil. Elle a tous les talents. Elle est née dans un milieu juif très lettré, elle a un frère mathématicien, mais de très haute volée, elle a fait normal sup, bon, etc., etc. Et puis, elle part en Espagne pendant très peu de temps, parce qu'elle est un peu gourde, la pauvre, elle va mettre ses pieds, un pied, dans une bassine d'huile bouillante, et elle va s'ébouillanter le pied. Mais elle va dans les rangs anarchistes, dans la colonne de Buenaventura Durruti, qui était un anarchiste très connu. On ne sait pas encore s'il n'a pas été liquidé au moment de la bataille de Madrid, lorsqu'il y a eu des affrontements très très violents du côté de la cité universitaire actuelle à Madrid. On ne sait pas si il est mort à la suite d'un combat ou s'il n'a pas été liquidé par des communistes. Bon, c'est une sombre affaire entre communistes, trotskistes et anarchistes. Bien. Alors, Simone Veil écrit une lettre en 1938 à Bernanos, que Bernanos va garder jusqu'à la fin de ses jours dans son portefeuille. C'est une lettre d'une qualité littéraire extraordinaire et d'une qualité de réflexion extraordinaire également. Elle lui dit, mais pas du tout, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre de mercenaires. C'est la guerre de l'Allemagne, c'est la guerre de l'Italie fasciste, c'est la guerre de l'Allemagne nazie. Et c'est également la guerre, bien sûr, de l'URSS, communiste et surtout totalitaire. Il y a encore une quatrième raison. Cette raison n'est pratiquement jamais invoquée chez les historiens qui ont traité de cette période de l'époque 1936-1938 en Espagne. Un ouvrage écrit en espagnol qui s'appelle Tras la Cruz, mais qui est la moitié d'un proverbe qui dit Tras la Cruz está el diablo. Derrière la croix se trouve le diable, le mal, bon, etc., etc. Et c'est le seul ouvrage digne d'intérêt, Terrorisme, persécution religieuse en Espagne 1936-1939, écrit par quelqu'un qu'on a appelé le maritain espagnol, mais qui n'avait pas du tout l'envergure ni la stature de maritain, et on l'a appelé comme ça. Et cet homme, donc José Valramín, nous a laissé l'une des critiques les plus violentes, mais pas pour autant les plus injustes, sur effectivement ce clergé espagnol lors de la guerre d'Espagne. Approfondissant ce versant négatif, je ne puis ne pas citer José Valramín, connu comme le maritain espagnol, qui se montrera plus sévère, mais non le moins injuste lorsqu'il écrira que l'Église espagnole a vendu son âme au diable, c'est-à-dire aux forces du mal, aux ennemis du Christ, les nazis allemands, les fascistes italiens, sans oublier dans une moindre mesure les troupes musulmanes du RIF. Cette perversion dont le scandale s'étale dans une répugnante trahison est à mettre à l'actif des évêques espagnols et même du pape Pie XII, je cite, dont l'un des premiers actes de son pontificat fut de rendre grâce à Dieu pour la victoire aux franquistes. À vrai dire, Arcabas fut atteint de plein fouet par la puissance de feu et de révolte qui se dégage des pages des grands cimetières sous la lune, au point d'occuper une place fondamentale dans la trajectoire de la pensée et du contenu de sa peinture, comme l'atteste le polyptyque ici considéré. Comment n'aurait-il pas été révulsé lorsque des curés à suivre Bernanos distribuent les absolutions entre deux décharges de mitraillettes, les souliers dans le sang? La preuve d'un tel impact est perceptible dans la proposition qu'il va faire à la Compagnie des Alpes d'utiliser pour la scénographie du journal d'un curé de campagne quatre toiles inspirées par l'ouvrage de Bernanos composé entre 1960 et 1962. C'est à cette occasion que surgit pour la première fois l'idée d'assembler ces quatre toiles disposées de part et d'autre d'une crucifixion monumentale peinte au printemps 1962, créant ainsi le lien d'ensemble conférant aux polyptiques sens et unité. Y ont contribué également, outre les grands cimetières sur la Lune, une recherche personnelle, surtout dans le personnalisme de Emmanuel Mounier. Il est à Grenoble, n'oubliez pas que Mounier vient de Grenoble. Il est né à Grenoble. C'est un philosophe, classé second à l'agrégation de philosophie en 1928, il a 23 ans, derrière Raymond Aron, ce qui est quand même une référence, yeah. Et qui va se poser un problème énorme, lui. Vais-je continuer dans la vie universitaire ou au contraire, vais-je être un innovateur? Et ce, à l'intérieur, bien sûr, si possible, du personnalisme, c'est-à-dire de cette personne qui est effectivement le bien absolu de la création. Il va également, dans cette quête spirituelle, parce qu'il y a beaucoup de spiritualité dans ce polyptique, être accompagné par un jésuite qui fait partie de ce que l'on appelle la charrette de Fourvière en 1950. Je m'explique. Fourvière est un scolastica de jésuites, ils ont été pratiquement tous résistants en 40-44, c'est là où on va créer les cahiers clandestins du témoignage chrétien. Lyon, comme vous le savez, la capitale spirituelle de la France, et il va rencontrer, puisqu'il a été déplacé en 1950 à Grenoble, le père Pierre Gagne. Pierre Gagne n'est pas n'importe qui. Pour ceux qui avons lu la revue Esprit dans les années 40-41, parce qu'ensuite elle est supprimée, il s'en est pris à qui ? Au représentant qui était le filleul du maréchal Pétain, c'est-à-dire Jacques Chevalier, professeur de philosophie à Grenoble, qui a été le maître vénéré pendant des années et des années de Mounir, avec lequel Mounir va rompre, il va effectivement avoir maille à partir avec Jacques Chevalier, car il conteste donc l'obligation du Christ à l'écran. Cet homme, comme vous le savez, va faire partie des premiers rédacteurs des cahiers clandestins du témoignage chrétien. Et c'est pour cette raison qu'il va être déplacé à Grenoble, parce qu'il fait partie de ces personnes que l'on appelle les théologiens de la nouvelle philosophie, de la nouvelle théologie, pardon. Ces personnes, j'en ai cité quatre, je vous en citais quatre, mais la liste est vraiment très incomplète, et qui ont été un clergé d'enseignement, Congar, Delubac, Chénu, Varillon, il y en a d'autres, hein, Durand, Bouillard, que j'ai connu à l'Institut catholique, bon, etc., etc., qui sont privés parce que ils vont effectivement prendre leur distance avec la scolastique et puiser volontiers leurs sources dans le magistère des pères de l'Église, utilisant pour ce faire des outils de compréhension et d'interprétation en vogue dans les sciences humaines, à savoir le recours à l'archéologie, à l'histoire, la linguistique, l'anthropologie, etc., etc., pour mieux pénétrer la lettre et l'esprit du message évangélique, résurgence nouvelle d'un vieux débat et éternel au sein de l'Église entre tradition et innovation, comme si la parole biblique avait livré toute la substance de l'étendue qui la fonde et les ressorts encore inexplorés qui la nourrissent. Aurait-on oublié ces accents pauliniens ? C'est par la liberté que le Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et encore, celle-ci, qui est très belle, on n'enchaîne pas la parole de Dieu, figurant en toutes lettres dans la seconde épître de saint Paul apôtre à Timothée. Cette traversée du désert va durer jusqu'aux années 1960, et puis elle va bien sûr connaître une réhabilitation progressive. On va connaître une réhabilitation progressive de tous ces remarquables ecclésiastiques. Concernant le père Gann, je vous ai dit qui il était, et il est bien sûr un des fers de lance cet esprit de résistance spirituelle qui réunit catholiques et protestants opposés à la collaboration avec l'Allemagne nazie et aux lois ignobles et antisémites de l'État de Vichy, afin de sauver ainsi l'éminente dignité de l'Église du Christ et de France. C'est dans la mouvance d'un catholicisme enraciné, épuré de tout doctrinalisme, que se situe Arcabas, un catholicisme incarné, engagé, critique et transcendant. Parvenu à ce stade, il nous faut aller quêter, dans l'ouvrage déjà cité plusieurs fois, les points de contact, les voies et les échos tissés entre écriture et peinture, ici de cette littérature d'interpellation dans laquelle Bernanos est passé maître et seigneur. En d'autres termes, comment la plume a-t-elle fécondé et inspiré le pinceau d'Arcabas ? Comment, en d'autres termes, donc la plume a fécondé et inspiré le pinceau d'Arcabas, comment ce pamphlet, ouvrage par définition polémique, vindicatif, virulent, excessif, un écrit incendiaire, en m'en tenir à l'étymologie du terme, flagéim, pamphlet, en grec, c'est l'incendie, un écrit incendiaire, eh bien, c'est ce réquisitoire magistral. Comment donc tous ces phénomènes sont-ils à l'origine du polyptyque assemblé en 1962, dérobé à la vue du public pendant 50 ans, avant de refaire surface dans les années 1212 et de trouver une place définitive en 2018 à Toulouse, capitale par excellence de l'exil républicain espagnol. L'ouvrage de Bernanos et le polyptyque s'inscrivent dans un contexte historique que l'un des historiens les plus brillants pour les études concernant la première moitié du XXe siècle, je veux parler de Jean Kershaw, a nommé l'Europe en enfer, dont la guerre d'Espagne préfigure l'effroyable tragédie scandée par des signes annonciateurs et prémonitoires, concrétisée par la tentation et la montée des totalitarismes, du fascisme, le déferlement des fanatismes, le discrédit des démocraties parlementaires, les purges et les procès de Moscou, le bombardement et l'anéantissement des populations civiles, Guernica, 26 avril 1937, semant l'horreur et la terreur, la chasse aux Juifs en Allemagne, la destruction et la déchéance d'une civilisation au bord d'un embrasement planétaire, dont Munich et l'esprit de défaite offrent une voie royale à tous les prédateurs idéologiques mettant les populations à feu et à sang. C'est le moment où se joue l'avenir du monde, en tout cas celui de l'Europe, pour reprendre à mon compte la leçon exigeante exprimée par Thomas Mann dans une publication aujourd'hui oubliée malheureusement, Avertissement à l'Europe, précédée d'une préface d'André Gide appelant à un renouveau des forces vitales d'un humanisme de combat pour que l'Europe ne soit pas réduite à une expression géographique et historique et pour que ses habitants n'aient pas à chercher dès maintenant un refuge en dehors du temps et de l'espace, car devenu souvent complice de l'acceptation passive du mensonge et du crime.
Deux témoins des violences et des conflits, quand Bernanos, l'écrivain, inspire Arcabas, le peintre d'art sacré. Vous venez de suivre la première partie de la conférence de Ricardo Saez, professeur émérite des universités, conférence enregistrée le 12 décembre 2022 à Pau lors d'une soirée proposée par Foi et Culture. La semaine prochaine, même heure, même lieu, vous pourrez entendre la deuxième et dernière partie de la conférence de Ricardo Saez.